France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la manifestation du 25 juin 1977, considérée comme la première marche des fiertés en France. En 2024, plus de 100 000 personnes manifestent en France, donc, en faveur de l'égalité des droits des personnes LGBTQIA+, autrement dit lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et autres identités sexuelles ou de genre. 47 ans plus tôt, en 1977, cet acronyme n'existe pas. Il et elle ne sont qu'une poignée à oser battre le pavé pour rendre visible ce que la société, médias et politiques en tête, préférait garder caché. Pourtant, cette journée est emblématique dans l'histoire des droits des homosexuels. En faire le récit, c'est se plonger dans le bouillonnement militant de la décennie 70, féministe en tête. C'est ce chemin que nous allons parcourir aujourd'hui, en retraçant le parcours de ces groupes militants, parfois fugaces, toujours pugnaces, qui se croisent, s'allient, se heurtent dans un rêve commun, la liberté d'être ce qu'ils sont. Notre invité aujourd'hui, Brice Langèbre, comédien et co-auteur avec le collectif Janine Machine du spectacle Le PD, une déambulation de rue qui retrace l'histoire des marches des fiertés et plus largement celle des luttes LGBT+. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Jeanne Mayer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Ces hommes, ces femmes se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. À leur manière, les homosexuels américains réclament ce que réclament beaucoup de minorités américaines, être intégrés tout en affichant sa différence. Inutile d'ajouter que la majorité silencieuse qui soutient le président Nixon contemple ce genre de manifestation d'un œil rond.
27 et 28 juin 1970, à New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles, pour la toute première fois dans le monde, des homosexuels manifestent dans la rue sans crainte ni honte. Gay and proud, gay et fier, clame la foule avec une joie non dissimulée. Il y a là beaucoup de jeunes personnes portant des pancartes qui prônent l'amour, l'égalité des droits et la fin des violences policières. Parce que si des milliers de femmes et d'hommes, lesbiennes, gays, trans, défilent ensemble cet après-midi-là, c'est pour commémorer le soulèvement de Stonewall, survenu un an plus tôt dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village. Dans la nuit du 28 au 29 juin 1969, la police de New York effectue une rafle de routine au Stonewall Inn, sur Christopher Street, un bar bien connu où viennent danser des homosexuels, des drag queens et des travestis, comme on dit alors, en particulier issus des communautés afro- et latino-américaines. À l'époque, les États-Unis interdisent tout comportement qui pourrait, selon la loi, menacer l'ordre public, comme embrasser une personne du même sexe ou porter une robe lorsqu'on est un homme. Les policiers dépêchés au Stonewall Inn arrêtent 13 personnes avant que la clientèle, aidée par des habitants et des habitantes du quartier, ne se révolte. Pendant près d'une semaine, 2000 personnes à bout crient l'injustice et la brutalité d'une législation homophobe. Le Christopher Street Day devient une date clé, célébré chaque année aux États-Unis et un catalyseur du combat des homosexuels pour leurs droits. De l'autre côté de l'Atlantique, la France de l'après-mai 68 oscille entre désir d'émancipation et regain de conservatisme. La première marche indépendante en faveur des droits des homosexuels a lieu le 25 juin 1977, 7 ans après les États-Unis. C'est à la fin des années 60 que naît l'un des moteurs essentiels du féminisme en France, mais aussi, on le verra, de la lutte pour les droits des homosexuels, le mouvement de libération des femmes ou MLF. Cela dit, le ou peut-être les MLF. Car ce mouvement, qui n'est ni un parti ni une association, englobe différents groupes, différents courants, différents vécus, à Paris et partout en France. Le 26 août 1970, 9 femmes tentent de déposer une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe en l'honneur de la femme du soldat inconnu. Un happening militant, filmé par la télé, qui deviendra l'un des événements fondateurs du MLF, alors naissant, autour de femmes comme l'autrice Monique Wittig ou la sociologue Christine Delphi. Un mercredi sur deux, l'École des Beaux-Arts de Paris se fait caisse de résonance féministe. Quelques centaines de femmes y abordent ensemble des sujets dont on ne parle pas à l'époque. La sexualité, les violences conjugales, les inégalités professionnelles, la prostitution et, bien sûr, le droit à l'avortement et à la contraception. C'est l'une des priorités du MLF, qui signe en 71, avec d'autres féministes, le manifeste des 343 en faveur de l'avortement, un texte retentissant, rédigé par Simone de Beauvoir et publié par Le Nouvel Observateur. Les femmes du MLF, pour la majorité issues des classes moyennes et intellectuelles, ne forment pas pour autant un groupe homogène. Il y a des mères et des femmes qui ne veulent pas d'enfants, des épouses et des célibataires, des modérés et des marxistes, des hétérosexuels et des lesbiennes, beaucoup de lesbiennes, comme l'explique l'historienne Marie-Jo Bonnet et l'écrivaine Anna Simo, ancienne du mouvement, dans « Sortir les lesbiennes du placard », un documentaire de Clémence Alzard réalisé par Somanina pour France Culture.
Moi, je peux dire que les lesbiennes ont été le fer de lance du MLF. Hein. Si je dis ça, les hétéros, elles vont m'engueuler parce que, en réalité, elles étaient aussi révoltées que nous. Donc, ça, pour moi, ça a été génial de rencontrer des hétéros qui éprouvaient et pensaient les mêmes choses que moi. Et donc, mais il y avait beaucoup de lesbiennes. Les lesbiennes, vraiment, ça a été l'humus du MLF.
Et il y a énormément de femmes au MLF qui ne disaient pas qu'elles étaient lesbiennes ou bien de femmes qui couchaient avec des femmes, parce qu'à l'époque, bon, elles étaient très nombreuses, mais elles devaient être invisibles. Faire partie de la catégorie femmes sans expliquer qu'elles avaient des différences.
Lesbiennes d'un jour ou de toujours, certaines au MLF le disent, d'autres le cachent. Avec une crainte, discréditer le mouvement. Car au début des années 70, lesbienne comme mal baisée, c'est surtout une insulte pour dénigrer les féministes en les accusant de détester les hommes. Dans la société française, celles qui aiment les femmes sont invisibles. S'affirmer lesbienne à l'époque, c'est risquer de perdre son emploi, son logement ou la garde de ses enfants lorsqu'on est divorcé. Et les gays que les médias désignent alors comme homophiles ne sont pas en reste. En 1970, l'arsenal législatif français est, à l'image de la société, profondément homophobe. Avec l'alcoolisme, la tuberculose ou la prostitution, l'homosexualité est considérée par la loi comme un fléau social depuis 1960. Les personnes homosexuelles sont donc fichées par la police et fréquemment arrêtées pour des motifs arbitraires. Une façon, selon les autorités, de protéger l'ordre public et surtout la jeunesse que l'on craint de voir corrompue. C'est dans cette optique que depuis 1945, la majorité sexuelle n'est pas la même selon qu'on soit hétéro ou homo. 15 ans d'un côté, 21 ans de l'autre. Cette loi qui rend illégale une relation entre deux hommes de 18 et 22 ans ou deux femmes de 19 ans sert à réprimer l'homosexualité le plus tôt possible. En France, et sera le cas jusqu'à 1992, l'homosexualité est considérée comme une pathologie psychiatrique. Oui, une maladie, qui peut donc être guérie par la psychothérapie, par des électrochocs et même par des opérations du cerveau. L'homosexualité est alors totalement absente des écrans de télé, si ce n'est dans des émissions spéciales, comme ce portrait d'un praticien en hôpital psychiatrique, portrait diffusé en 70 par l'ORTF.
Tout à l'heure, on a parlé là dans cette réunion des problèmes homosexuels qu'il pouvait y avoir. Jusqu'où doit-on aller dans la tolérance du symptôme? Est-ce qu'on doit laisser faire en se disant, bon ben, ils ne peuvent pas faire autrement, ou est-ce que nous avons à intervenir? C'est souvent la question qu'on se pose à l'intérieur de nos réunions. Car l'hôpital psychiatrique, est-ce que c'est un endroit où on va tolérer tous les symptômes? Ça ne serait pas productif au point de vue thérapeutique. Et alors, il faut que nous arrivions à jouer une espèce de balance entre eux. Tolérer le symptôme, l'accepter, et puis à d'autres moments, au contraire, ne pas l'accepter. Hein, de manière à ce qu'il y ait un progrès qui puisse se faire.
Il y a un endroit en France où les homosexuels sont bienvenus, c'est l'association Arcadie, créée en 1954 par l'ancien séminariste André Baudry. Dans un ancien théâtre du 10e arrondissement de Paris, Arcadie propose des après-midi dansantes et des conférences avec l'idée de normaliser l'homosexualité. Un refuge discret dont la quête de respectabilité divise toutefois. La militante Françoise Daubonne, membre du MLF, a ces mots très critiques pour André Baudry en 70. Vous dites que la société doit intégrer les homosexuels. Moi, je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. Mais c'est l'année suivante que la rupture va être consommée entre Arcadie et une frange, disons, plus radicale du militantisme homosexuel encore balbutiant. Le 10 mars 71, André Baudry est invité sur le plateau d'Allô Ménie, une émission de RTL où la présentatrice Ménie Grégoire parle sexualité avec ses auditeurs et surtout ses auditrices nombreuses, puisque 2 millions de personnes l'écoutent chaque jour à 15h. Sur un ton compatissant, Ménie Grégoire s'intéresse à l'homosexualité, présentée comme un problème réversible par un psychanalyste et par un prêtre. C'est une première à la radio, mais l'émission n'aurait peut-être pas fait date s'il n'avait pas été interrompu.
Je suis un peu désolée du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème religieux. Je voudrais que le père Guinchat donne tout de même, réponde au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel ?
J'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie. Moi, j'accueille beaucoup d'homosexuels qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible.
Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté, liberté.
Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes.
La liberté.
C'était du temps où la télé faisait du direct. Ménie Grégoire affolée rend l'antenne. Dans le public ce jour-là, il y a Christine Delphi, Monique Wittig ou encore Antoinette Fouque et Anne-Marie Fauré du mouvement de libération des femmes, ainsi que d'autres camarades, femmes surtout, et quelques hommes bien décidés à déranger l'ordre établi. Le soir même, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, est créé collectivement avec ces mots en guise de communiqué « Toubib, soigne-toi toi-même ». L'objectif, en rupture avec la stratégie de l'organisation en douceur d'Arcadie, c'est bien de subvertir radicalement l'ordre bourgeois et hétéropatriarcal de la société. À Paris, c'est encore aux Beaux-Arts que le Front homosexuel d'action révolutionnaire va se réunir. Le jeudi soir, pour que les femmes lesbiennes du MLF, dont l'Assemblée Générale est le mercredi, puissent multiplier les fronts. Dans les premiers mois, la cohabitation entre les militantes et leurs homologues masculins se fait sans heurts. On organise des projections, des débats, on écrit des articles, on distribue des tracts, mais progressivement, l'entente se fissure. De nouveau, comme à l'extérieur du monde militant, les femmes, les lesbiennes, se sentent invisibles. Hélène Azéra, qui deviendra journaliste à France Culture et à Libération, est alors membre du Phare. Elle se souvient dans A Voix Nue sur France Culture, au micro de Céline Duchesnay.
Il y a la réunion.
Aux Beaux-Arts, hein ? Aux Beaux-Arts de Paris.
Personne pour diriger, c'est celui qui crie le plus fort qui a la parole, ou celui qui réussit à faire le silence. C'est une vraie épreuve, hein. J'ai la voix qui porte. Et petit à petit, les femmes n'ont plus pu parler. J'ai un souvenir de Marie-Jo Bonnet, qui tout d'un coup s'est mise debout sur une table et a commencé une danse du ventre. Tout le monde s'est arrêté. Elle dit, ben voilà ce qu'il faut faire maintenant qu'on est une femme et qu'on veut parler au phare.
En infériorité numérique, las de se sentir dépossédées de leur combat, les femmes du Front homosexuel d'action révolutionnaire cherchent un espace, leur espace. Parce que le mouvement de libération des femmes ne les satisfait pas non plus, en tout cas pas pleinement. Elles participent aux actions pour le droit à l'avortement ou contre les violences conjugales, mais elles aimeraient aussi pouvoir parler entre elles de sujets qui les concernent en tant que femmes et en tant qu'homosexuelles. Au printemps 71, elles sont 50 environ, bientôt 100, puis 200, entre 20 et 35 ans, à constituer un nouveau groupe au sein du MLF, les Gouines Rouges. Gouines pour se réapproprier l'insulte, et rouges parce qu'elles sont révolutionnaires. Lors d'une journée organisée à Paris pour dénoncer les crimes commis contre les femmes, en présence de Simone de Beauvoir, les Gouines Rouges montent sur scène. L'une d'entre elles, Marie-Jo Bonnet, alors étudiante et future historienne, se souvient dans un documentaire de Clémence Alzar et Somalinda sur France Culture.
Notre grande intervention, ça a été à la mutualité en 1972. quand les Gounod sont intervenus le samedi soir. Là, ça fait un choc, parce que c'est la première fois vraiment qu'on se montrait, qu'on montait sur la scène. Je veux dire, symboliquement, c'est très important comme acte d'émancipation, si je puis dire. Hein. Bon, alors, j'ai lu le tract au micro. Hein, femmes qui refusons les rôles d'épouse et de mère, l'heure est venue où du fond du silence, il nous faut parler. Voilà, du fond du silence. Moi, c'était là-dedans que je me trouvais. Hein.
Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise.
C'est vraiment une prise de parole individuelle et collective. Ça, c'est très important. Hein.
70, 71, 72, trois années fondatrices pour les groupes militants féministes et homosexuels qui se construisent et se rencontrent au MLF, chez les Gouines Rouges ou au Phare. Des femmes, des hommes hétérosexuels, homosexuels, décident collectivement de sortir du placard pour affirmer haut et fort leur droit à la liberté et réfléchir à une autre société. Ensemble et malgré leurs différences, ils et elles s'approprient des espaces qui leur étaient jusque-là refusés, comme les médias et la rue. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la première marche des fiertés.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
C'est une délégation des ouvriers du Joint français qui a ouvert le premier des défilés de la journée, celui organisé par une dizaine de groupes révolutionnaires, plusieurs milliers de jeunes, beaucoup de fantaisie et d'ardeur, et pour mieux rythmer peut-être les slogans politiques, le renfort d'une fanfare. Deux mots d'ordre principaux, halte à la répression dans les entreprises et vive la grande offensive des peuples d'Indochine. Pas d'incident majeur, dispersion dans le cadre.
Printemps 1972, alors que les États-Unis s'apprêtent à commémorer le soulèvement de Stonewall, la France fête ses travailleurs et ses travailleuses. Le 1er mai 72, le mouvement de libération des femmes, les Gouines Rouges et le Phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, rejoignent les manifestants d'extrême gauche, maoïstes, trotskistes, anarchistes. Mais les insultes commencent à fuser. Pour la Ligue communiste révolutionnaire et pour Lutte ouvrière, le combat des homosexuels, ce n'est rien d'autre que de l'individualisme petit bourgeois, sans rapport aucun avec la lutte des classes et les revendications des ouvriers. Pour les communistes, l'oppression homophobe n'existe pas. Quelques mois avant la manifestation du 1er mai, Jacques Duclos, candidat du Parti communiste en 1969, le dernier responsable politique à rouler l'air sous la Ve République, a ces mots quand un militant du Phare l'interpelle lors d'un meeting. « Comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions ? Allez vous faire soigner, vous êtes tous des anormaux. » Elena Zera en témoigne sur France Culture.
Le mieux du Phare, c'était les manifs. 500 PD en train de hurler « Ah, que c'est bon de se faire enculer !» Les gens, ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'était drôle. En fait, la plupart des gens étaient passés par le gauchisme et avaient été maltraités par le gauchisme de façon abominable. Un des slogans que j'aimais beaucoup du Phare, c'était « Gauchiste, desserrez les fesses ». Ça a été aussi un mouvement anti-gauchiste, le Phare, parce que les gauchistes étaient devenus quelque chose de petit chef, et on a commencé à faire le bordel.
Est-ce que c'est ça la naissance, Elena Zera, des gasolines ?
Oui, c'est ça.
La présence qui dérange le plus les militants d'extrême gauche, ce 1er mai 72, c'est sans doute celle des gasolines, effectivement. Un petit groupe du Phare qui entend déranger le conservatisme gauchiste. Des folles revendiquées, le mot est d'elle, hein. Mais aussi des travestis, on ne dit pas encore trans, à l'époque. Les gasolines manient l'humour, le maquillage et les slogans avec le même esprit festif et subversif. Prolétaires de tous les pays, caressez-vous. Nationalisez les usines de paillettes. Ou tout simplement, bit, bit, bit. B-I-T-E, scandale dans le cortège du 1er mai. Au Phare, chez les Gouines Rouges, on s'inquiète parfois de cette flamboyance. Et si les gasolines, avec leurs froufrous et leurs stéréotypes assumés, ne desservaient la cause ? L'année suivante, en 73, sous la pression des militants gays, les États-Unis retirent l'homosexualité de la liste des maladies mentales. En France, des avancées se font sentir à mesure que le sujet trouve sa place dans le débat public. Jean-Paul Sartre et Serge Julie créent le journal Libération, qui offre une tribune aux luttes des homosexuels. À la télé, Jean-Louis Borry, prix Goncourt 1945 et critique de l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter, parle librement de son homosexualité avec ses mots sur le plateau de Philippe Bouvard.
Je suis heureux de profiter de cette occasion pour en parler sérieusement, parce que j'appartiens à un milieu, qui est celui-là, qui est sublimement pourri. J'appartiens à une société qui est la classe bourgeoise, qui maintenant l'a tellement vue qu'elle permet tout. Et par conséquent, puis comme j'ai une petite notoriété sur le plan de la littérature, bon, alors je peux me permettre de dire certaines choses. Mais je pense à tous ceux qui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité justement de pouvoir s'épanouir et dire « je suis comme ça » et puis merde. Bon, eh bien, il y a des tas de gens qui en crèvent parce qu'ils ont honte, qui en crèvent parce qu'ils sont simplement poinçonneurs, parce qu'ils sont vendeurs dans un magasin, parce qu'ils sont ouvriers d'usine, il y en a qui en souffrent horriblement.
Il y a beaucoup de poinçonneurs qui s'appellent Denise.
Mais bien sûr, pourquoi pas.
Il est très rare quand même qu'un monsieur avec une casquette qui fait des petits trous, enfin qui faisait, parce que c'est un emploi qui tend à disparaître.
Grosse erreur, Philippe Bouvard, grosse erreur.
Joue les folles sur un quai de métro.
La même année, c'est la lutte des féministes qui se voit récompensée par d'immenses victoires. La dépénalisation de l'avortement, mais aussi le divorce par consentement mutuel, œuvre du président Valéry Giscard d'Estaing, avec l'appui de la gauche et de ses députés qui votent les lois en question. Dans la société civile, le combat des femmes et celui des homosexuels se tissent en parallèle. C'est aussi l'époque de Starmania et de son tube, Ziggy, un garçon pas comme les autres, chanté par Fabien Thibault. En politique, la gauche évolue sur la question de l'homosexualité, notamment grâce à l'engagement de l'avocat Robert Badinter, proche du Parti Socialiste. Le fond de l'air n'est plus seulement rouge, mais aussi rose et violet, la couleur du féminisme et du mouvement lesbien. Les États-Unis créeront bientôt le drapeau arc-en-ciel, tandis que Harvey Milk devient en 77 le premier élu ouvertement homosexuel de l'histoire de la Californie. 1977, justement. C'est l'année choisie en France pour la première marche indépendante en faveur des droits des personnes homosexuelles. La première marche des fiertés sur le modèle américain du Christopher Street Day. « 25 juin 1977, Paris. 2,5 km en ligne droite, de la place de la République jusqu'à la place des Fêtes, sous un ciel gris qui n'entache en rien la joie des cortèges. Il y a des femmes en majorité, mais aussi des hommes. Et peut-être, rêve-t-on, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. En réalité, ils ne sont pas là, mais ils soutiennent les femmes du MLF à l'origine de la marche. Et ce sont une nouvelle fois les féministes du mouvement de libération des femmes qui portent l'initiative. Les Gouines Rouges n'existent plus, mais elles sont encore nombreuses au MLF à militer en faveur des droits des homosexuels. Cela dit, non sans divergence. Certaines, parmi les hétérosexuels, craignent que le combat lesbien ne divise les femmes. Autour de l'écrivaine Monique Wittig se développe par ailleurs une pensée plus radicale contre l'hétérosexualité, considérée non pas comme une orientation sexuelle, mais comme un régime politique qui assoit la domination des hommes sur les femmes. Et tandis qu'au MLF on s'affronte en interne, des figures plus modérées apparaissent, comme Françoise Giroud, la nouvelle secrétaire d'État à la condition féminine. Bref, le féminisme s'institutionnalise. Quant au phare, il a été remplacé par les groupes de libération homosexuelle, ou GHL, avec l'idée de donner crédit à toutes les sensibilités, révolutionnaires, libertaires ou réformistes. À Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, Rennes ou Orléans, des GHL organisent festivals de cinéma, universités d'été et autres émissions de radio pour rendre audible la cause. Ce 25 juin 1977, ce sont 400 personnes qui manifestent à Paris pour cette première marche des fiertés tricolores. 400, c'est à la fois peu et beaucoup, tant il faut faire preuve d'audace et de courage pour s'affirmer en tant qu'homosexuel dans l'espace public à l'époque. Les militantes Dominique Poggi et Catherine Laourcade ont tendu leur micro aux passantes et aux passants dans un film conservé par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Oui, est-ce qu'ils sont réprimés pour faire une manifestation? Quand on fait une manifestation, c'est qu'on est réprimé, non?
C'est ce qu'ils ont l'air de dire, oui.
Je sais pas, je n'avais pas remarqué.
Un PD, c'est deux hommes ensemble.
Ouais.
Et les pédales, c'est deux filles ensemble.
Qu'est-ce qu'on pense?
C'est des cons.
C'est des cons, pourquoi?
Je sais pas. C'est pas bien.
Si c'est chacun son chacun et chacune sa chacune, ça vous va pas?
Non. La nature est là, vous savez. Moi, je suis une personne qui aime la nature. Nous nous occupons de conscience et ça ne va pas, ça. Non.
L'homosexualité, c'est un genre qu'on a donné depuis une quinzaine d'années. Hein. Dans le temps, il y en avait très peu, mais maintenant, plus ça va, et pire. Et les gouines. Et les gouines, il y en a de plus en plus.
Ouais.
Nous sommes bien d'accord.
Ouais.
Et qu'est-ce que c'est de travailler une gouine? Mais croyez-moi bien que c'est pas beau.
Comment ça se passe?
Hein? Ah ben écoutez, si vous voulez qu'on le fasse tous les deux, ben je vais vous montrer en dessin.
Si vous prenez l'antenne maintenant, ce que nous venons d'entendre date de 50 ans. Les manifestantes et les manifestants de cette première marche pour les droits des homosexuels n'ont que faire des haussements de sourcils et autres démonstrations de l'homophobie ordinaire. Non, l'ambiance est joyeuse, façon MLF. Ce 25 juin 77, on chante, on rit, bras-dessus, main dans la main ou carrément enlacés. Les slogans et les pancartes disent l'engagement, la colère, la fierté parfois. Phallocratie, moralité, virilité, y en a marre. Voilà encore, j'ai pas honte, j'ai peur. Ou enfin, ma joie, être gay. Mais aussi, nous sommes toutes des lesbiennes américaines. Car cette marche est une réponse à la croisade homophobe que mènent aux États-Unis la chanteuse Anita Bryant et son organisation Save Our Children, Sauvons nos enfants. Une campagne menée d'abord en Floride, puis dans tout le pays, qui galvanise à la fois les conservateurs américains et un mouvement homosexuel de plus en plus structuré. À Paris, cette première manifestation indépendante est notamment relayée par Libération, tandis qu'Interactualité préfère couvrir un autre défilé qui se tient à Paris le même jour.
Nous ne voulons pas être des exclus. Nous ne voulons plus être montrés du doigt. C'est ce qu'ont affirmé bien haut cet après-midi près de 200 motards dans les rues de Paris au cours d'une manifestation qui a ralenti, soit dit en passant, la circulation de la Nation à la place de l'Étoile. Les motards parisiens entendaient ainsi attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs problèmes propres. Ils veulent être considérés comme des conducteurs normaux. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont rappelé en début d'après-midi.
Celles et ceux qui participent à la marche du 25 juin 1977, c'est une explosion de joie qui permet de taire, le temps d'une journée, les divisions politiques et stratégiques au sein des mouvements féministes et homosexuels. Car toutes et tous le savent, il sera nécessaire de s'entendre en vue de la présidentielle qui se profile dans 3 ans. de 400 en 1977. Ce sont 15 000 personnes qui défilent à Paris en 1981 pour faire pression sur les candidats et obtenir des mesures politiques en faveur des droits des homosexuels. Mais au détriment des lesbiennes et des militantes féministes pourtant pionnières dans ce combat, comme l'analyse l'ancienne des Gouines Rouges, Marie-Jo Bonnet, sur le site de France Info, en 1981, ce n'était pas la même énergie qui se manifestait, regrette-t-elle. Les gays avaient pris le pouvoir et se bagarraient pour être au premier rang, en tête de cortège, derrière la banderole, pour la photo. De fait, le cortège de 1981 est largement masculin.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat.
Sept ans de bonheur, c'est le message envoyé par les électrices et les électeurs homosexuels de François Mitterrand. Le nouveau président tient alors ses promesses de campagne. À l'été 82, il met fin au fichage des homosexuels, au contrôle d'identité sur les lieux de drague et démantèle la brigade spécialisée de la préfecture de police de Paris. La majorité sexuelle des jeunes gays et lesbiennes est alignée sur celle des hétéros. Mais alors qu'un renouveau s'annonce, une maladie inconnue se propage déjà aux États-Unis avant de venir frapper le monde de plein fouet, et en particulier les homosexuels, le sida. Au fil des années, malgré la violence des épreuves traversées par la communauté LGBTQIA+, celle qu'on appellera en France « Gay Pride », puis « Marche de fierté », devient un symbole. Retracer l'histoire de la première marche du 25 juin 1977, c'est mettre à l'honneur ces pionniers, et surtout ces pionnières, qui ont osé arpenter la rue, mais aussi dépasser leurs divergences. Le mouvement de libération des femmes et les Gouines Rouges, avec le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, les GHL, et l'association Arcadie, entre autres mouvements, ont permis, en libérant la parole, de faire évoluer l'opinion publique et de changer la loi. En France, le combat pour les droits des homosexuels est encore en marche, et bien du chemin reste à faire. Les marches des fiertés, qui se tiennent désormais dans toute la France, rappellent à chaque printemps l'importance de l'engagement collectif en faveur de la liberté et de l'égalité.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la première marche des fiertés en France en 1977. Notre invité Brice Lajeunèbre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédien, co-auteur avec le collectif Jeanine Machine du spectacle Le PD, une déambulation à mi-chemin entre le théâtre et la manifestation de rue. D'abord, pourquoi avoir choisi ce titre qu'on ose à peine prononcer, hein ? PD, c'est horrible comme mot.
Oui, enfin, je sais pas. En tous les cas, c'est vrai que le titre du spectacle fait parler, ça c'est sûr.
Eh oui.
Je pense que c'est la raison pour laquelle on a choisi ce titre-là. Je pense que c'est parce qu'on entend plein de choses avec PD, on entend l'insulte.
D'abord, hein, franchement.
D'abord, on entend l'insulte, et comme le disent les manifestants et les manifestantes du reportage qu'on vient d'entendre, c'est important de se réapproprier l'insulte pour en faire un objet de lutte. On entend, vous le disiez tout à l'heure dans le reportage, dès 69, dès Stonewall, en fait, il s'appelait PD et PD et lesbienne. Donc il y a ce besoin-là. Je pense qu'à travers ce titre-là, on entend aussi l'histoire et on entend la revendication. On entend la lutte à travers ce titre-là. Et du coup, voilà, nous on a choisi ça, puis c'est aussi clairement la volonté de mettre les pieds dans le plat et de provoquer. C'est d'ailleurs la seule chose qui est provocante dans ce spectacle-là, c'est son titre. Mmh. Et oui, on entend dans le public, avant que le spectacle ne commence, des gens qui se disent « Ah mais on peut pas appeler un spectacle comme ça, ben, si on peut. » Et là, nous, on a gagné, parce que ça fait débat, et que ce débat-là, il est au centre du spectacle.
Quelle est la vie de ce spectacle? Comment se présente-t-il? Où se joue-t-il? Dites-nous tout.
Alors, c'est un spectacle qui est pas vieux, hein. Il est né en 23, donc on a fait la deuxième tournée l'année dernière. Mmh. C'est une déambulation en espace public, donc ça se joue en extérieur. et ça bouge, on bouge de spot en spot, qui vient raconter l'histoire des luttes homosexuelles majoritairement en France, des années 60 à aujourd'hui. Donc c'est du départ de l'émission qu'on vient d'entendre jusqu'à l'arrivée du sida, et on continue encore jusqu'à aujourd'hui.
Et la rue, alors le choix de la rue, c'est parce que là on vient de parler de la première marche des fiertés, et que c'est effectivement dans la rue que ces femmes-là et ces hommes-là se sont fait entendre. Oui. C'est ça que vous avez voulu symboliser aussi par la rue, plutôt que sur une scène?
Oui, ben en fait, il y a plusieurs réponses là encore. C'est-à-dire que la rue, d'abord parce que c'est mon terrain de jeu à moi depuis une quinzaine d'années, parce que j'y trouve de l'intérêt à faire du spectacle dans la rue, gratuit pour les gens. Et puis aussi parce qu'effectivement, quand on parle des luttes homosexuelles, ben, c'est là que ça s'est joué, comme vous le dites. Et puis, c'est aussi dans la rue qu'on se fait insulter, qu'on se fait emmerder, et c'est dans la rue qu'on manifeste. Donc c'est dans la rue qu'on raconte que se passent ces prides. Et c'est là qu'on a, nous, décidé d'utiliser cette piste-là comme lien dramaturgique dans le spectacle, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire des luttes homosexuelles à travers l'histoire des prides. Comment c'était quand ça n'existait pas, comment elles sont apparues, ce que vous venez de raconter en fait, comment elles ont évolué, comment elles se sont fait réapproprier, par qui et pourquoi. Alors il n'y a pas eu, on n'a pas parlé du pinkwashing là dans le, mais ça arrive un peu plus tard. Bon, c'est-à-dire la réappropriation commerciale du projet quoi. Et puis ensuite arriver jusqu'à qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'est-ce que ça vient raconter quoi. Et du coup l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un narrateur au départ qui arrive, qui s'appelle Brice, qui propose au public de faire une pride, ici et maintenant, dans la ville dans laquelle ça se joue. Et donc, il demande son avis au public. Et puis, le public, il se rend compte avec l'avis du public que pour faire une pride aujourd'hui, il faut d'abord savoir pourquoi on est là. Qu'est-ce que ça vient raconter de faire une pride? Qu'est-ce qu'on fait quand on raconte une pride? Et donc, il décide à ce moment-là, ce narrateur, de partir à l'origine de la pride. Et donc, au lieu de faire une pride ici et maintenant, on part à Stonewall aux États-Unis. Puis ensuite, on revient en France. Et chaque déambulation est une manifestation historique. Donc, celle du MLF, celle du Phare, le 1er mai avec le directeur général de la CGT dont vous avez parlé, on joue cette scène-là, on divise le public en deux, on fait un bifrontal avec d'un côté les gens de la CGT et puis de l'autre les manifestants du Phare et du MLF, et où je raconte qui scandent des slogans différents et où je raconte ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, du coup, le public devient tour à tour des militants et militantes du Phare, des militants et militantes du MLF, d'ACT UP plus tard, etc., etc.
On est à la fois dans le théâtre, le happening.
Oui, c'est ça. Alors, happening, oui, en fait,
Oui, parce que c'est comme une forme particulière, le public participe.
Oui, le public participe. Je dirais qu'on est plutôt à la fois entre le spectacle, la manifestation et un travail de mémoire. Parce que l'idée de ce spectacle, la base de ce spectacle, c'est de réhabiliter les pionnières et les pionniers qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut faire un spectacle dans la rue qui s'appelle le PD. C'est l'idée.
Vous avez fait le festival d'Aurillac, je crois que c'est le festival d'Aurillac, qui est un grand festival de rue. Hein.
Oui, on a fait le festival d'Aurillac, on a fait le festival de Chalon. On joue un peu partout en France, c'est un spectacle qui tourne beaucoup. Ouais. On a cette chance-là, parce que je pense que, en tout cas, il n'y avait pas dans l'espace public de spectacle qui parlait de ça. Il y a très peu de livres ou très peu de films qui retracent toute la période. Il y a des films ou des bouquins qui se focalisent sur un temps en particulier, mais il n'y a pas cette grande frise. Et quand moi j'ai fait mes recherches pour le spectacle, je me suis rendu compte que moi-même je la connaissais pas, cette histoire, qu'elle était pas visible, et du coup il y a eu besoin de la visibiliser, et du coup c'est pour ça que le projet est parti.
Alors on va revenir sur le fond un peu plus tard. Combien de comédiens?
Alors, on appelle ça un solo en binôme. Oui, l'exercice du solo, c'est un exercice auquel je voulais me frotter. Mais avec moi, il y a Céline Bertin, qui, je sais, est en train d'écouter là.
Bonjour Céline Bertin.
Bonjour Céline Bertin. Et puis bonjour les autres, parce qu'il y a toutes les autres aussi qui écoutent.
Pas toutes les autres, c'est qui?
Eh ben, alors c'est les autrices.
D'accord.
Les co-autrices, on est trois co-autrices. Sarah Dogamarzouk, qui est aussi la metteuse en scène de ce projet. Marlène Serlupus, qui est la deuxième autrice, qui est aussi assistante à la mise en scène et costumière. Et moi, on est trois auteurs. D'accord. Et autrices. Et Céline Bertin, elle est régisseuse son, elle est constructrice du décor, parce qu'on a un char. On a un char qu'elle tire, sur lequel je suis.
Qui rappelle la Gay Pride, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et elle est aussi comédienne, donc on a des interventions régulières.
France Inter. Affaires sensibles.
Brice Lagenèbre, je rappelle que vous êtes comédien et co-auteur avec le collectif Janine Machine du spectacle intitulé Le PD, une déambulation à mi-chemin entre le théâtre et la manifestation de rue, on l'a résumé comme ça. On a utilisé dans le récit le terme « marche des fiertés », mais longtemps on a dit « gay pride », comme si seuls les hommes homosexuels participaient à ces marches et à ces combats pour la défense de leurs droits. Alors on l'a vu, les femmes pourtant pionnières ont été écartées des prides, invisibilisées. Pourquoi et par qui ?
C'est assez simple en fait à comprendre. Elles ont été invisibilisées par les hommes, mais à plusieurs reprises, parce qu'on est dans une société patriarcale, hétéronormée. Et donc du coup, dès lors que la porte a été ouverte, peu importe par qui, finalement, les hommes prennent d'assaut. Même à Stonewall, c'est ce qui s'est joué aussi. Les pionnières, c'est quand même des femmes trans racisées, comme vous l'avez dit dans le documentaire. Et puis on leur a demandé plus loin dans Christopher Street Gay Liberation Day, d'ailleurs. Gay Liberation Day, on leur a demandé, les manifestations qui ont suivi les années après, on leur a demandé de ne pas être devant le cortège parce qu'elles donnaient une mauvaise image à la lutte, parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles sont trans, voilà. Alors que c'est quand même elles qui se sont battues pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui.
C'est-à-dire ce fléau du patriarcat, de la domination des hommes, sévit aussi dans la communauté homosexuelle.
C'est ça. Et surtout, la communauté trans aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes droits que la communauté homosexuelle et se voit retirer des droits. Et ça, c'est important de le dire quand même aujourd'hui. Alors que ce sont elles qui ont lutté à Stonewall. Et aussi aux farces, pareil, vous l'avez dit, les Gouines Rouges, elles se sont montées parce que les hommes retrouvaient entre eux et se gossaient. La preuve, on est deux hommes à parler de ça, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et du coup, c'est tout un schéma classique qu'on retrouve partout et la communauté homosexuelle et LGBTQIA+, ne fait pas exception à la règle.
Et c'est intéressant de le savoir parce que c'est, par définition, la communauté homosexuelle est dans le train du progrès, du progressisme, puisque les changements de société ont été en leur faveur et le combat est loin d'être terminé. Mais c'est quand même dommage de réitérer un modèle contre lequel, par nature, on devrait se battre.
En fait, la question qui se joue, c'est qu'aujourd'hui, là où il faut qu'on se batte, c'est pour essayer de garder nos droits et pour essayer, arrêter de, je pense, lutter pour... c'est le problème, c'est qu'on lutte pour son petit nombril, même à l'intérieur d'une
communauté.
D'une communauté. Voilà. Et du coup, je pense que l'idée, ce serait... En fait, le problème, c'est qu'on est dans une société capitaliste et patriarcale. Alors après, lequel des deux, entre le capitalisme et le patriarcat, a créé l'autre, ça, je sais pas.
Ils sont intimement liés.
Oui, mais alors, lequel de la poule ou de l'œuf, ça, j'en sais rien. En tous les cas, on est encore dans un schéma de domination de l'homme blanc, riche, cisgenre, valide et hétérosexuel. Et à partir du moment où on n'est pas où on déroge à une de ces cases, on fait partie de la catégorie des dominés. Et je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui de continuer cette lutte et que les divergences qui peuvent se retrouver et les différences qui se retrouvent dans cette communauté doivent continuer à se battre. Et nous, en tout cas, on a l'intention de le faire. En tout cas, on le fait avec ce spectacle.
On a parlé dans le récit des Gasolines, ce petit groupe du phare qui s'aventurait dans les manifestations habillé en femme avec beaucoup d'humour et de provocation et qui dérangeait l'époque, mais y compris parmi les militants homosexuels. Cette dimension festive, on a entendu les slogans tout à l'heure, certains font vraiment rire. Jaune un peu, mais ça fait rire. Cette dimension festive, ce sens de la dérision, de la subversion, c'est un marqueur de cette lutte.
Oui. Ah bah oui, il y en a eu besoin, mais il n'y a pas eu que les Gasolines. Je pense aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, pareil, qui sont dans un...
Comment vous dites ?
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui est un mouvement qui est né aux États-Unis en 79, qui est arrivé en France au moment du sida, et qui était un groupe qui existe encore aujourd'hui. Les Sœurs, les couvents, il y a des couvents partout en France, et puis pour rentrer dans le couvent, il y a tout un chemin à faire, on ne peut pas rentrer comme ça. Et l'idée, c'est de lutter contre le sida et la connerie humaine, c'est comme ça qu'elles le disent, les maladies sexuellement transmissibles et la connerie humaine. Et du coup, de tout temps, il y a eu effectivement, alors après, ça a fait discussion à l'intérieur même de la communauté ou des groupes militants, mais oui, il y a toujours cette nécessité de se réapproprier le côté festif. Il ne faut pas oublier que c'est aussi dans le côté festif, il y a aussi le politique du festif qui vient avec les exubérances et qui vient avec la provocation. Mais ACT UP faisait ça aussi. Provocation, action forte en tout cas, action forte, action marquante, la grosse capote sur l'obélisque, c'est les actions, le sang sur le... Voilà, c'est toute la question de comment est-ce qu'on se fait écouter.
Oui, l'impact.
Oui, voilà, c'est ça.
Certaines campagnes, de certaines idées.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que cette dimension ludique avec l'humour est présente dans votre spectacle?
Oui.
Oui, c'était quelque chose d'important pour vous?
Tout le long, c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé ensemble avec Sarah et Marlène, c'est qu'on a un rapport à l'écriture qui se joue à cet endroit-là, justement. C'est que nous, on aime travailler des sujets de société, mettre en jeu des sujets de société et en rire parce qu'on trouve que c'est plus important, que c'est plus intéressant pour nous de faire rire pour ne pas pleurer, pour que après le premier degré puisse prendre un impact plus fort. Voilà, et on alterne entre ces changements de rythme-là.
Alors, au début du spectacle, vous vous présentez comme un homme blanc cisgenre. Pourquoi c'était important pour vous, cette mise au point?
Parce que, je me présente pas que comme un homme blanc cisgenre, homosexuel aussi. C'est important parce que l'histoire est subjective et qu'elle appartient à celui qui la raconte.
Oui.
Et du coup, il était important pour nous que on affirme que ce qu'on dit, on le dit à partir de notre prisme. Nous, on a des idées, on a des points de vue. Alors évidemment, pas sur tout, il y a plein de choses sur lesquelles on est en suspens. On en donne pas mal de points de vue. On donne des points de vue avec lesquels on n'est pas d'accord. On donne aussi le nôtre. Mais ce point de vue-là, il est forcément lié à notre capital culturel et intellectuel, et il n'est pas universel, c'est le nôtre. Et du coup, à partir de ce moment-là, on ne peut parler que de notre place. C'est pour ça que la première phrase du spectacle, c'est ça. C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'on parle de ce point de vue-là.
Alors, quand vous jouez, vous regardez les spectateurs, parce qu'il y a rapport avec eux, est-ce que vous voyez quelque chose de générationnel? Est-ce que vous avez un public jeune? Et est-ce que vous sentez que le public jeune a une oreille forcément plus dressée, plus attentive?
Oui. Le public jeune, le public jeune queer, en tout cas, je le vois et il attend. Un spectacle qui s'appelle Le PD, il l'attend et je sens qu'il est alerte, ce public. Après, il est mixte, le public. On a aussi beaucoup de vieux PD et de vieilles lesbiennes qui viennent nous raconter à la fin qu'on vient de raconter leur vie. Les yeux tout pleins de larmes et tout émus. Il y a aussi des gens qui connaissaient rien du tout de cette histoire-là. Il y a des professeurs d'histoire qui m'ont demandé, parce qu'à la fin, on donne une frise chronologique qui retrace les événements du spectacle. Et il y a un professeur d'histoire, une fois, qui m'a demandé cette frise-là pour me dire, j'aimerais bien partir de cette frise dans mon cours d'histoire, parce qu'encore une fois, c'est pas la grande histoire des hommes conquérants qui partent à la conquête de territoire, c'est l'histoire des PD et des lesbiennes qui essayent de survivre. Et du coup, à travers cette histoire-là, on a quand même la grande histoire.
Bon, il y a de l'hostilité quelquefois, non? Des réacs, j'allais dire des vieux réacs. Non, il peut y avoir des réacs jeunes aussi.
Oui, il peut y avoir des réacs jeunes. Oui. De l'hostilité, on n'en a rencontré pas beaucoup. Honnêtement, l'accueil est quand même plutôt très bon. On a des situations où, effectivement, c'est pas si simple que ça. Une ville, une fois qui nous a accueillis, on a senti que la ville était plutôt hostile à ce qu'on soit là. Les volets se fermaient, les enfants se faisaient rentrer dans les maisons quand on passait et qu'on gueulait des molécules pour qu'on s'encule. voilà, qui est un slogan d'Act Up, on l'a pas écrit, c'est pas nous qui l'avons inventé.
Bien.
Voilà.
Bien. Bon, ce sera le mot de la fin.
Ouais.
Voilà. Brice Lagenèvre, merci, au revoir.
Merci.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, la première marche des fiertés, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sophia Lactib.